avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors ?
Alors ?
Alors ?
On se fait un film ?
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.
Ce générique m'avait manqué. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ce générique, de retrouver mes compères, Arnaud, Vincent, comment
salut,
allez-vous ?
Salut Lucas,
bonsoir. Bonsoir.
Et oui, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait... on n'avait pas fait notre partie de l'émission Alors on se fait un film. Comment allez-vous ?
Ça va.
Ouais, c'est un ça va au mieux, je pense, général. Cette semaine, vous allez revenir. Bon, on a le gros dossier, entre guillemets, d'une partie 2.
Qui était un peu en attente.
Qui était un peu en attente pour nous, en tout cas. Oui. Parce que, enfin, il a été en attente, vu qu'il était prévu pour novembre 2023. Et il est sorti
début d'année, là. Fin janvier, quelque chose comme ça. Ouais.
Absolument, début février. Toujours la fiche. Oui. Quand même, il marche bien. D'ailleurs, j'ai vu que les carmes allaient le passer.
Il le met en avant.
Je trouvais ça assez cool quand même qu'il le mette en avant. Ils avaient fait quand même la même chose pour Oppenheimer et Barbie, donc le fait de voir un blockbuster n'est pas non plus si étonnant que ça. Donc on va reparler d'une partie 2, là on est tous les trois à l'avoir vu.
Ouais.
Je pense que ça peut faire un gros bout d'émission, entre guillemets.
Bon, clairement,
Vous avez vu Immaculé ?
On a vu aussi Immaculé, qui est sorti il y a maintenant 2-3 semaines.
2-3 semaines que moi je n'ai pas vu. Que... Étonnamment, il m'intéressait un peu, alors que je ne suis pas du tout dans le genre, déjà, horreur et encore moins, le côté religieux, voilà, religieux, de l'horreur. Oui. Mais voilà, pour vous, votre programme, il me semble, après on pourra revenir encore plus loin si on a vraiment des choses à dire, parce que mine de rien, moi, j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma, parce que chez moi, j'en ai vu quelques-uns quand même. Mais le dernier que j'ai vu, du coup, en nouvelle sortie, c'est Kung Fu Panda 4. C'est vraiment le plus récent dimanche. Il est sorti mercredi dernier, absolument.
Bah, c'est bien.
Sinon, après, ça va remonter jusqu'à la salle des profs, donc n'est même plus en exploitation. Ouais. Donc ça remonte. Et puis encore avant, j'avais vu du coup L'Empire de Bruno Dumont, et je crois pas qu'on l'avait abordé.
Bah, c'est marrant de faire une comparaison. Toi, tu pourras le faire, parce que nous, on n'a pas pu le voir, L'Empire de Bruno Dumont, mais beaucoup ont blagué un peu sur le fait que c'était assez ambitieux. C'est avec Dune 2 qui sortait pas loin derrière, il avait fait un peu son film d'anticipation ou de SF.
Ouais, alors moi, du coup, je suis passé totalement à côté de ce... je pense que je vais commencer parler de L'Empire de Bruno Dumont, et après, on fera le lien, du coup, direct avec Dune 2, et ça me permet de faire dans l'ordre et d'enlever les plus vieux visionnages. Mais oui, moi j'y suis allé vraiment inconsciemment, sans savoir vraiment du tout ce que j'allais voir.
Ouais.
Parce que j'avais tilté un peu sur l'affiche, on m'a dit c'est du kitsch, c'est normal, c'est Bruno Dumont. Donc j'y suis vraiment allé avec ça. Et il dure 2 heures quand même. Hein. C'était 2 grosses bonnes heures, 2 trop grosses bonnes heures.
1h58 de trop, c'est ça ?
Clairement, vraiment, moi je suis pas rentré du tout dans le truc, dans le projet, même si c'est kitsch, même si c'est assumé, parce que j'imagine que c'est très assumé, mais c'était vraiment pas prenant, c'était pas très drôle, voire pas drôle du tout. Fabrice Luchini, moi je l'aime bien, donc j'ai pas été déçu, on va dire. Beaucoup le trouvent énervant, ce que je peux comprendre, mais moi j'ai pas été énervé, je suis jamais trop énervé par lui, au contraire. Mais Lina Koudry, par exemple, qui est assez montante en ce moment, qu'on avait vu très dernièrement dans Ouria, sur un film de danse et un peu historique. Je me demandais ce qu'elle faisait là. Qu'on avait vu aussi dans les Mousquetaires.
Ouais, ok.
J'ai pas vu le deuxième volet des Mousquetaires, donc je sais plus si elle était dans le deuxième. En tout cas, elle était dans le premier, bien sûr.
Elle joue pas Constance, c'est elle qui joue Constance.
Oui, voilà, absolument. Le côté vraiment SF qui prend presque une heure à venir.
c'est Igo, parce que sur la bande-annonce, il le vend bien, ça. Donc c'est un, c'est un coquin.
Je crois. J'allais dire, est-ce que je dis vraiment grand chose on va dire les vaisseaux mettent très longtemps à venir.
Ouais, d'accord.
Le côté vraiment spatial et science-fiction met très longtemps à venir. Ou du moins le côté croustillant, on va dire, du truc.
Ouais.
Le côté vraiment prenant qui aurait pu être exploité et met longtemps à venir. Et le seul bon point pour moi presque, c'est qu'il y a une recherche dans une sorte de... Nous, ce qu'on pourrait maintenant rapprocher à une IA, mais c'est pas trop ça.
Mm-hmm.
C'est une sorte d'entité. Je dis IA, mais c'est pas trop ça. Mais c'est une entité qui dirige un peu les deux parties. Et j'ai trouvé qu'il y avait une création sonore parce qu'ils ont une sorte de voix. Enfin, c'est pas une voix non plus, mais c'est un son que fait cette entité qui était trop trop spécial. Et c'est le seul truc qui m'a fait un peu accrocher. Et c'était une sorte de, enfin je sais pas, de boule de pétrole. Alors là je parais un peu fou, mais
un peu qui est pété du casque,
mais ouais, c'était le seul truc qui me prenait un peu à cœur dans le film. Mais sinon c'était très long, c'était très dur de rentrer dedans. J'ai pas fait mes recherches, il y avait beaucoup d'acteurs professionnels dans le film.
C'est la tradition du monde, hein. C'est-à-dire que avant ils prenaient même que des acteurs non pro pendant longtemps. Maintenant, depuis qu'il se fait un peu à la comédie loufoque, il prend quelques têtes d'affiche, dont Lucchini. Mais j'ai plus le titre en tête, Arnaud, mais on avait beaucoup aimé un film précédent de lui qui se passait dans le Schnorr.
Oui, comme beaucoup.
comme beaucoup, on va dire, parce que c'est son univers autour de la, entre la France et la Belgique et la Flandre. C'est vraiment son univers de travail habituel.
Malout,
voilà.
Ah,
en fait,
bah oui.
Malout avait fait scission ici, comme tu peux pas l'imaginer, c'est avec des sacs de sable, des barricades et de la mitraille entre Céline et puis je crois Julien, mais surtout Céline. Je me souviens qu'on en avait parlé en émission bilan de fin d'année. Nous, on avait été en adoration de Malout. On était marrés comme des tordus avec Arnaud. On avait adoré le surjeu fou de Lucchini. Et Céline était là avec des yeux comme des soucoupes. Elle disait, mais comment vous avez pu marcher un truc pareil? Elle dit, c'est pas possible, c'est une daube insupportable. Elle était à deux doigts de se barrer au bout de 10 minutes de film. Et j'ai entendu, on a vu des gens se barrer au bout de 20 minutes. Nous.
Ouais.
Mais nous, on se tenait les côtes avec Arnaud parce qu'on connaît le mec. Et on savait qu'il était capable de délire pareil. Il faisait petit quinquin pour Arte depuis quelques temps avant. Par contre, je pense qu'il allait trop loin maintenant. C'est bien qu'on en parle finalement du film, parce qu'on ne l'a pas vu, mais on connaît un peu la façon dont il travaille et on sait où il en est maintenant. C'est un cinéaste ambitieux, Bruno Dumont, on le suit. Moi, je le suis, Arnaud aussi, on le suit depuis très longtemps, depuis ses premiers films. Et il est arrivé à un basculement là, depuis quelques années maintenant, où il s'est décidé à faire du loufoque, à faire de la vraie comédie, donc avec Petit Quinquin, les deux saisons, sur Arte. Il a fait donc Malout, qui pour nous a été un point d'orgue, je trouvais intéressant, parce que c'était justement, c'était fou, c'était tordu, mais c'était pas fatigant, comme tu le dis, à voir. Et moi, nous, on avait bien marché dans le truc, mais je peux comprendre que des gens qui n'avaient pas forcément su prendre le truc dans le bon sens soient absolument horrifiés et se barrent tout de suite. Mais après, il a fait des choses qui sont beaucoup plus insipides.
Il a fait France avec
France, par exemple, que j'ai même pas la curiosité de le voir. Et je l'avais sous les yeux.
Exactement.
J'ai pas envie, quoi.
Et qui, voilà. Qui de ce que j'ai entendu dire sur ce film ne me donnait pas du tout envie de le voir. Et
c'est bien le problème. Et pareil, il a fait aussi un peu avant, alors là c'était pour Arte encore, il travaille beaucoup avec Arte, c'était l'adaptation de l'univers de Jeanne d'Arc. Là c'était un film danse enchanté, enfin c'était une comédie musicale sur Jeanne d'Arc. Le truc faisait 2h30 aussi, je crois, 3h presque. Enfin bref, sur les textes exigeants de Peggy.
Oui, le Jeanne fait 2h18.
Voilà, 2h18, mais ça paraissait 3h15. Et là, je l'avais regardé quand même, je me suis dit, alors, à part deux bonnes sœurs qui font du headbanging et qui font du rock'n'roll, c'était un peu décalé, c'était marrant, mais sinon, le reste, c'est le texte de Peggy. C'est très austère. Et en fait, j'arrivais pas à savoir ce qu'il va. Puis à part filmer la Flandre, alors t'as des moutons de Don Rémy, mais qui sont tu vois, à l'océan Atlantique, tout ça, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Donc là, non. Moi, ce que j'espère, et apparemment c'est sur le bon chemin, c'est qu'il revienne à un film sérieux. C'est qu'il revienne à son premier univers, à son premier cinéma, qui est le cinéma que nous, on aimait bien aussi, de l'humanité, de la vie de Jésus, je crois. Voilà, de éventuellement le troisième...
Flandre, non ?
Je ne pensais pas à Flandre, mais je pensais à 29 Palms, l'essai qu'il avait fait aux États-Unis, où il s'était décidé à partir aux States, plutôt dans LA, et puis l'arrière-pays de Los Angeles, là, le désert de la mort. Il a fait un film, un peu un essai, genre road movie, qui était très violent, comme surtout ses films de début. Et j'aimerais bien qu'il revienne à ça. Et apparemment, ce serait possible que son prochain film soit sérieux.
Il a dit en interview sur France Culture.
Voilà,
après,
il s'est engagé.
Est-ce que ce sera suivi des faits?
Espérons-le, parce qu'il est capable. Il faut voir sa filmo de début par rapport à ce qu'il fait régulièrement maintenant. C'est un cinéaste que moi j'aime beaucoup, en tout cas qui est capable de fulgurance. Et voilà. Mais je me priverai probablement d'aller voir ce l'Empire-là. J'ai pas eu motivation. Même en voyant la bande-annonce, je me suis marré une seconde et je me suis dit, la force devient fatigant quand même.
Je pense qu'on a regardé la même seconde et on a ri à la même seconde parce que c'est la seule seconde.
C'est ça.
Non, mais j'ai plus rire. J'ai pas le souvenir d'avoir passé un bon moment, à part justement pour ce que je disais de cette entité. Mais là, ça reste de l'artistique plus que réellement dans le film. Etc.
Je vais citer du Franquin, je m'arrive de le faire de temps en temps, c'est vos âneries n'amusent que vous.
Et ça permet, on reste dans la science-fiction, mais cette fois peut-être un peu plus sérieuse avec le gros morceau de Dune partie 2.
Oui.
Qui je laisse commencer ?
Ah là, difficile à dire. Ah, c'est un peu de faire un pitch déjà. Et du coup, c'est un peu difficile de faire un pitch parce que déjà, ça enchaîne avec le premier volume, le premier film, dont je ne me souviens plus vraiment à quel moment il s'arrête d'ailleurs.
Il s'arrête quand Paul et sa mère Jessica sont recueillis.
Ouais, c'est ça, par les Fremen.
Par les Fremen. Enfin, quand je dis recueillis, on n'est pas encore arrivé dans l'habitat chez les Fremen.
Ouais.
C'est vraiment, on trace la route. Enfin, c'était une fin un peu en queue de poisson qui, malheureusement, ne concluait pas le film.
Ouais.
Il n'y avait pas de véritable conclusion, de choses qui se résolvaient. Sur ce qu'on avait déjà vu chez Lynch, je suis désolé, il va falloir en parler. Ça s'arrêtait vraiment à un moment où, qu'est-ce que. Non, vous avez. T'as rien raconté. Excuse-moi, je t'ai repris un peu la parole, mais le premier était simplement, en fait, on pourrait dire, une introduction à l'univers.
C'est vrai.
Et malheureusement, on attendait quand même qu'il se passe plus de trucs, même s'il s'en passe des choses, mais malgré tout.
Sur 2h35, c'est ça le théâtre. Parce qu'on se dit, premier film, il dure longtemps.
C'est une info que j'adore, les deux font la même durée.
Mais quasiment, 2h48 par morceau, quand même.
Ouais.
C'est pas rien.
Et en fait, je pense que ça a été ça, son truc, ça a été d'avoir posé l'univers qu'il voulait faire sur son premier film et qu'il soit pas aussi mouvementé que son deuxième, parce qu'il a déjà la troisième partie qui est en préparation.
On a bien compris, si les gens ne savaient pas, il y aura une trilogie.
On sait où il va aller, et quand on comprend ça, moi je trouve qu'on comprend pourquoi le 1 de ce que j'en garde était si présentatif de ce que ça pouvait être.
Sauf que pour moi c'était un mauvais choix. Je veux dire, il aurait pu condenser un peu plus tout en racontant à peu près autant de choses.
Ce qui est dingue, j'avais même pas fait penser à ça, c'est que même parce qu'il y a deux acteurs principaux, acteur-actrice, et il y a un duo mis bien en avant, c'est Timothée Chalamet d'un côté et Zendaya de l'autre. Et dans la première partie, Zendaya n'était qu'en rêve. Elle apparaît que dans des rêves de Paul, en fait. Parce qu'un contrat, il avait même rajouté des plans de rêve un peu plus, parce que Zendaya a râlé un peu de ne pas apparaître autant dans le premier film. Et du coup, là, évidemment, c'est différent. Sur le deuxième, beaucoup des problèmes du premier sont gommés pour enfin rentrer dans l'action. C'est quand même un point positif du deuxième opus, parce que c'était un de nos reproches principaux. Alors, indépendamment de l'action pure, ce qui était un de nos reproches, on en avait longtemps débattu ici avec Julien, et c'était la tonalité globale du film, c'est-à-dire y compris sa photo, y compris son angle de narration. Notre référence jusque-là, c'était celui de Lynch de 1984. Alors, on va faire un peu vieux tonton flagrant, on va refaire un peu le même principe. C'est-à-dire que nous, on est un peu fans de ce film, qui est pourtant considéré parfois pour certains, pour beaucoup même, comme un nanar, à l'époque déjà. Hein. C'est-à-dire que quand il est sorti, il a fait un flop. Mais j'aime bien les flops parfois. Quand on a que ça à se mettre sous les yeux, surtout quand Arnaud, qui est fan du bouquin, qui a lu tous les livres, qui s'est envoyé Herbert, je veux dire vraiment, Frank Herbert, pas le monsieur, mais
deux
les livres.
Fois.
Voilà, il faut vraiment être.
Voilà. Enfin, ceci dit, je les ai lus, je tiens à préciser quand même, je les ai lus.
Bien avant.
Après.
Je pensais que
bien après avoir vu le film de Lynch. Donc, du coup, je suis pas comme tous ceux qui étaient fans du bouquin et qui, en voyant le film de Lynch, et qui étaient hyper déçus.
Ouais.
Moi, au contraire, ça m'a aussi amené de l'eau à mon moulin quand je lisais le bouquin. Kyle MacLachlan, je le gardais en tête.
Ouais.
Pour moi, c'était pas une hérésie. Certes, il n'est pas aussi jeune que c'était décrit dans le livre, mais je trouvais qu'il campait le jeune naïf, innocent et un peu, oui, il avait quand même une certaine candeur, une certaine juvénilité qui, malgré son âge, apparaissait à l'écran. Donc, bon, voilà, après, c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Je comprends très bien que ceux qui avaient d'abord lu le bouquin et qui s'étaient fait leurs propres images, etc., aient pas retrouvé ce qu'ils avaient en tête une fois qu'ils ont vu le film de Lynch. Mm. Film que lui, oui, donc il répudie pour diverses raisons. Je trouve quand même que sa patte artistique était présente, malgré tout. Que ses étrangetés de mise en scène et de façon de capter les choses en les rendant si singulières étaient quand même là dans le film, et c'est pour ça que je l'ai aimé, entre autres.
Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, c'était vraiment notre référence, y compris dans des petites choses, même dans la narration, la voix off, par exemple, qui est détestée par beaucoup de monde, et que nous, on aime beaucoup. Le fait que Paul, par exemple, sort des phrases qui sont devenues cultes par la suite, et la plupart du casting aussi, qu'on aime essayer d'entendre ou de revivre. Et chez Villeneuve, il en a fait table rase. Il est vraiment passé sur un autre... D'abord, il n'y a pas de voix off, d'une part, ça, c'est du récit.
Non, je crois que... Enfin, ou très, très peu, s'il y en a. Peu, en tout cas, peut-être un petit peu à quelques moments. En clé, mais c'est tout. Mais bon, dans les romans. Mm. Alors après, je suis pas contre le fait, parce que c'était casse-gueule, hein, comme Paris, de prendre les voix off. Mais dans le bouquin, effectivement, on entend, on lit les pensées intérieures des uns et des autres, de la plupart des personnages, et on voit en quoi leurs paroles diffèrent parfois, souvent même, de ce qu'ils pensent réellement. Ce qui est un des enjeux aussi de l'écriture de Frank Herbert, c'est-à-dire, comme c'est cité au moins une fois là, dans le second film, les plans dans les plans.
Les plans dans les plans, oui.
Ce qui fait partie, ça aussi, des phrases...
Je vois le plan à l'intérieur du plan.
Bon, y a un simple truc... après, je vais essayer d'en finir avec Lynch. Mais quand même, quand on a les navigateurs, enfin un navigateur qui vient rendre visite au début du film à l'empereur, qui lui dit « je ne suis pas là, vous ne m'avez pas vu », et l'autre qui répond « je vous entends ». Ouais. Malgré tout, il y a une espèce de poésie, je trouve, dans cet échange. Ouais. Bon, voilà, que je retrouve pas chez Villeneuve. Bon, après.
Ça, c'est voilà, c'est le cœur qui parle et puis le souvenir à la Madeleine. Mais indépendamment de ça, si on reprend vraiment la nouvelle donne de Villeneuve, on est clairement dans un progrès sur le 2 par rapport au premier. Même si on retrouve la même lumière, les mêmes.
Alors,
ce qui est assez amélioré parfois.
Ça s'est amélioré. C'est-à-dire que l'image systématiquement désaturée du premier. Ici, on a quand même un peu plus d'efforts sur de la couleur, des ambiances, d'éclairage différentes.
Ouais.
Bon, à tel point que chez les Harkonnen,
c'est tout l'opposé.
C'est vraiment
le noir et blanc.
Ça y est, c'est le noir et blanc. Et je suis pas forcément fan
de ce choix,
de l'effet que ça donne.
Sur la différence entre le noir et blanc ou juste le noir et blanc.
Non, je sais pas, ça donne une texture qui est assumée. Enfin, quand on voit Phèdre, qui a l'air, je sais pas, presque lumineux.
Ouais. Cette peau blanche diaphane avec une espèce de radiation ou du moins de c'est un peu comme s'il était
C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu dans le premier non plus. Mais... je sais pas, ça fait bizarre. Et puis bon, on est donc sur la scène de combat dans l'arène. Le public fait vachement numérique quand même.
Ouais. Sur cette séquence-là, c'est pas la meilleure.
Il y a ce côté impressionnant qui est présent, mais par l'image et par l'imagination de ce qu'on veut nous faire voir et pas de ce qu'on voit vraiment. Où en fait, du coup, de ce qu'on voit, comme tu dis, ça paraît très numérique et ça paraît très loin et pas.
C'est pas très heureux, on va dire, qui est mal réussi.
Je sais pas, on en parlait juste après la projection. J'ai vraiment eu la sensation que parfois les cadrages, justement. Était raté. On a une petite bande en bas de l'écran où on a les figurants, enfin numériques ou pas, et puis on a tout le gigantisme. Alors je comprends le propos, je comprends l'idée, mais en même temps mon ressenti c'était que ça semblait mal cadré. Après je vois bien, il y avait des références que j'ai notées, je peux me tromper, mais franchement en voyant l'architecture C'était la première fois qu'on la voyait comme ça par rapport au Harkonnen. J'ai retrouvé les dessins que j'ai vus en cours d'histoire de l'art ou autre des architectes futuristes italiens. J'ai pas noté le nom particulier, mais franchement, je crois que l'inspiration elle est directe. Mais je peux me tromper, mais c'est en tout cas ce que ça m'a laissé comme impression. Sinon, pour sortir des détails, le film dans l'ensemble est quand même plus rythmé, plus intéressant que ce qu'il y avait dans le premier. Enfin, on rentre enfin dans le sujet.
Voilà, il y a une entrée en matière qui est déjà beaucoup plus présente et beaucoup plus prenante, même pour le spectateur, que le 1. Là, je suis d'accord. Ouais.
Les enjeux, je trouve, sont bien marqués. Les personnages ont durci leur jeu. Vraiment, ça se sent surtout sur Chalamet, qu'on pouvait un peu reprocher d'être un... Il a musclé son jeu. C'est-à-dire que vraiment, hein, il a mâché des cailloux et c'est impressionnant parce que je trouve que parfois il envoie vraiment. C'est pas un acteur, je suis grand fan, mais là j'avoue qu'il m'a assez bluffé sur certaines séquences. La fameuse scène du combat qui était historiquement avec Sting dans la version de Lynch. Là, je trouve qu'on n'a vraiment pas perdu à ce combat, même si Arnaud, je sais que tu avais un petit truc qui t'a un peu tiqué sur certaines choses, mais je trouve qu'il y a vraiment une puissance des deux acteurs, des deux personnages qui se confrontent vers la fin du film. Il y a un bon choix de casting, je pense, pour le Fade. Clairement, parce que bon, le baron, il est un petit peu engoncé quand même dans sa... C'est un acteur que j'adore, Stellan Skarsgård, mais je trouve qu'il n'a pas possibilité, de par peut-être les effets spéciaux, etc., de pouvoir exprimer tout son genre. En même temps, il fait peur quand même. Et il a quelque chose quand même de massif et tout. Ça, c'est bien respecté pour la partie, on va dire, Harkonnen. L'empereur arrive avec son Altesse Sérénissime, Christopher Walken. Avec peu de choses, une économie de moyens stratosphérique, il arrive à camper aussi le personnage avec sa fille, pardon, Florence Pugh, qui est vraiment à la mode en ce moment, hein, qui est dans tout. Avec, genre, j'aurais quelques petits reproches sur ses tenues, enfin, genre Paco Rabanne.
Et
puis elle apparaît pas tant que ça.
Je veux dire, logiquement, tout ce qui est empereur, etc., aurait dû être présent déjà dans le premier.
C'est vrai, oui. Ça démarrait par ça. Donc, là, on les découvre que dans le 2. Il y a d'autres personnages qui apparaissent dans le deuxième film, donc plus riche en personnages. Ça, au moins, c'est aussi un point positif. Et puis, ce coup-ci, vraiment, on voit les Fremen de l'intérieur, un peu plus détaillés, avec leur rapport au désert. On voit bien sûr les vers de sable. C'était important que les Shai-Hulud apparaissent enfin, parce que depuis le temps qu'on les fantasme un peu dans le premier film, ils sont à peine esquissés. Là, on les voit. Alors, après, faire une étude comparative technologique en termes d'effets entre le premier film et celui de 84 et les gens sont un c'était pas si mal fait en 84, il y avait des trucs qui étaient plutôt pas mal faits pour l'époque, hein. Et à voir qu'aujourd'hui, avec la techno numérique, digitale et tout ce qu'on veut, c'est pas forcément si loin en termes d'effets, on va dire, à l'écran. Moi, je suis toujours un petit peu sur les détails, sur les choix esthétiques, sur les choix costumes, etc. Le distill était vachement bien réussi chez Lynch. Il n'y a rien à dire. C'était un écorché humain noir. Alors que là, c'est moins évident. Surtout qu'en plus, il rajoute des châles, il rajoute des tissus dessus. Donc, oui, on ne peut pas voir vraiment.
La tenue seule est assez... Ouais.
C'est un choix, je respecte. Mais il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres petits détails qui sont super intéressants dans cette version. Je trouve, je ne les ai pas tous mémorisés, mais... pas forcément les marteleurs parce qu'ils ressemblent beaucoup au premier, mais il y a des petites choses, des petites
boîtes.
C'est
une variante.
Ouais, j'ai trouvé que c'était inventif.
Pour rester sur l'aspect design, les moissonneuses d'épices
sont plutôt pas mal.
Sont plutôt pas mal. Là, pour le coup, on pense à des espèces de tiques en fait.
Ouais.
Et ça vient, pour moi, ça vient clairement d'une inspiration de Geiger.
Ce qui est une belle référence.
Qui était une belle référence. Ouais. Et de toute façon, il avait bossé sur le projet de Jodorowsky. Donc, on retrouve un peu ce côté biomécanique. Donc, il y a quand même y a pas mal de bonnes choses. Le devenir de Paul aussi,
son accession
au statut de Messie et sa crainte de devenir un despote. C'est un peu plus travaillé peut-être que chez Lynch, mais c'était quand même présent, malgré tout.
C'est vrai. se poser ces questions.
Là, par contre, l'enjeu effectivement semble un peu plus plus urgent. Enfin, plus ça, on sent que ça le travaille un peu plus.
D'autant qu'en plus, comme on sait maintenant qu'il y aura un trilogie, qu'il y a une troisième partie, les enjeux peuvent justement se reporter sur la troisième partie, avec une sœur à venir aussi. Enfin, ce qui était plus exploité, enfin développé dans le Lynch, mais là, ça c'est esquissé déjà.
Oui, ça aussi c'est un choix, bah, pourquoi pas, après tout, mais qui est pour l'habitué que je suis du récit selon Lynch, et je pense même selon Frank Herbert. La sœur, sa sœur naissait déjà après la prise de l'eau de vie.
Ouais.
L'eau de la vie ou de la vie,
ouais, c'est ça. Enfin,
pas la prune, hein. Mais donc elle naissait après cette épreuve des révérendes mères, et donc prenait part déjà à l'action au moment de la fin de ce récit là donc bon, je trouve ça un peu dommage d'être passé à côté, mais
placement produit pour Anya Taylor-Joy, quand même une des actrices les plus bankable du moment, hein.
Ouais. Elle fait une Zendaya en fait, sur le premier.
Elle fait une Zendaya.
sur le premier.
Elle a pas loupé les marches quand même, parce que le film, lors de la distrif,
elle a quand même fait beaucoup de comment dire, de pub et de propagande.
Elle apparaît 20 secondes, 10 secondes.
Elle apparaît 10 secondes, oui, mais elle est pas mal dans les crédits de pub, etc.
Ouais, c'est drôle.
De com, pardon, voilà.
Mais Zendaya, j'ai trouvé assez impressionnante aussi, un peu renfrognée, mais par contre, bon, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et encore une fois, là, je trouve tout le casting, Ferguson qui joue la Jessica, enfin la mère, vraiment à zéro défaut, je trouve, sur l'interprétation de cette deuxième volet. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un gros problème. On a parlé de progrès, mais c'est vrai que c'est.
Du coup, moi, quand j'y suis allé, j'avais un peu beaucoup oublié le 1, pour être honnête. Et du coup, j'y suis allé. Presque en me disant que j'avais
un seul film que tu connais avant, quoi.
Et j'ai été surpris déjà, enfin pas surpris, mais j'ai été marqué visuellement, évidemment, parce que j'avoue que j'ai pris quand même une certaine claque. Et puis dans l'action, parce que du coup j'y suis allé avec mon père qui lui a trouvé ça un peu plus long, etc. Bon, après on regarde pas forcément les mêmes choses, mais on reste quand même sur du 2h48. Et moi, c'est 2h48 que j'ai pratiquement pas vu passer.
Ouais, non, mais c'est.
Et au niveau narratif, où je me suis pas ennuyé et je me suis pas posé de questions de relâchement, quoi. Donc j'étais vraiment à fond et je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Où je me dis que je vais sûrement plus le garder en tête que le 1, du coup, que j'avais, j'avais pas mal oublié.
Et je l'ai rematé le 1 à Pamp, parce qu'il est passé sur différentes télé, même TF1, je crois, l'a passé à 23h.
Le dimanche après, il est
repassé. Voilà, et en le rematant un peu, le 1, il est fastidieux quand même, en comparant par rapport au 1, on voit bien. Certes, les choses sont placées dedans, c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'on découle les personnages, leurs ambitions, leurs machins bidules. Ça permet. Mais c'est quand même une sorte de long prologue, en fait. Il n'y a pas beaucoup de scènes. À part, il y a quelques scènes d'action quand même. Mais c'est un long prologue, un long installation.
C'est une très longue installation.
Un peu trop longue à ce qui démarre vraiment dans ce deuxième. Donc c'est pour ça qu'heureusement quand même qu'il peut montrer. Villeneuve est un bon réalisateur. Quand même. Il ne faut pas se leurrer. C'est un grand, grand cinéaste. Et c'est intéressant que là, il ait pu montrer sur le projet Dune, qu'il va poursuivre sur un troisième volet, le potentiel du truc, et qu'il arrive quand même à confirmer son univers, le rapport à l'eau, les choses qui étaient évidemment présentes dans les premières adaptations, mais là c'est encore plus marqué chez lui, hein, le fait que même à un moment la nausée, on va dire, de grossesse, le mec, c'est l'acteur, c'est Javier Bardem, il lui conseille de refrainez-vous car l'eau est importante. C'est assez amusant, c'était quand c'est très cocasse, voilà, chaque goutte d'eau est importante sur Arrakis, et c'est plus pointilleux et méticuleux, ça, que dans l'adaptation Lynch de début.
Oui.
Sur ces points-là, je trouve. Il y a des petites choses intéressantes sur cet univers-là. Le côté, bon, plus Touareg, enfin, l'évocation, évidemment.
Alors là, on a quand même quelques décors de l'intérieur des grottes qui sont quand même vachement intéressantes,
vachement intéressant,
bien. Ouais. Encore une fois, là, ce que je regrette un peu, c'est le manque d'éléments, de décors, d'objets utiles, etc. Ce que je reprochais au premier, hein, le premier, c'est à Paul, il a une chambre, il n'y a pas de meubles. Chez les Harkonnen, il n'y a pas de meubles. Et tout est gris.
Il y a quelques objets qui font leur apparition quand même à un moment. Et le truc que je me suis dit, c'est bien, c'est inventif ça. Je ne sais plus à quel moment.
Oui, mais si tu veux, là, le folklore des uns et des autres, il n'est vraiment pas enrichi de, des objets du quotidien, etc. Enfin, qu'on pourrait supposer. Bon, là, il a voulu faire vraiment ascétique, froid, etc. Et il réussit à le faire, mais moi, ça m'avait ennuyé. Là, je trouvais qu'il y avait effectivement un peu plus de choses, même si je trouve que le reproche est encore,
recevable.
Encore recevable, à un moindre degré.
Je suis quand même d'accord, et puis je retrouve ça un peu dans les décors et les vaisseaux, etc., où je trouvais un apport assez, pas maigre, mais je m'attendais à plus de entre guillemets, bastions, quoi, enfin de trucs très 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 massif, etc. Où j'ai pas après moi je peux pas apporter mon expertise face au livre et face au film de Lynch, mais je trouvais que c'était un peu moindre, quoi, enfin pas moindre mais peut-être très 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 peu, et où du coup le l'apport comment dire épique des batailles était présent par un peu moins d'effet que ce que j'imaginais.
Il y a quand même une dernière partie qui la bataille, enfin la grande bataille finale, elle est quand même assez bien faite.
Je trouve pas que ce soit quand même son point fort. Enfin, je veux dire en termes de narration, mise en scène, il y a des trucs quand même qui me restent un peu. Enfin, que je trouve pas forcément bien abouti, c'est-à-dire. Ouais. Le but, c'est de foutre l'Asie d'Azani au niveau des Harkonnen, d'empêcher l'épice, etc., de circuler. Mais en termes de temporalité, de chronologie, on sent pas trop le temps qui passe. Ça leur prend normalement, ça leur prend quelques années à foutre les Harkonnen H2.
C'est ça, ouais.
Et là, le montage, la narration fait qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas vraiment.
Oui. Ouais, on a l'impression que c'est tout se passe très très vite, tout va assez vite. Alors que le premier est très long.
Oui, c'est vrai. Effectivement.
Et là, il y a une espèce de vitesse supérieure qui a été passée et peut-être un peu lâcheuse.
Oui, mais avec, encore une fois, j'ai l'impression des failles dans le scénario ou des trucs. Bah, tiens, non, ça, j'ai pas pris. Allez, hop. Et du coup, mais j'ai l'impression qu'il a pas bien. Enfin, les morceaux sont pas recollés de façon fluide pour moi à ce niveau-là. Après, bon, il y a l'attaque de la. La scène de l'attaque de la moissonneuse, qui est quand même.
Les mecs en fouillant le sable avec leur petit tuba qui leur permettent d'être enterrés. Enfin, c'est vraiment pas mal, ces séquences. Ça m'a super inventif sur les méthodes d'embuscade et tout. Ça se pose là quand même. Ouais. C'est assez bien vu ça.
Oui, donc il y a du bon et du moins bon. Je sais pas, c'est. Voilà. En même temps, c'était quand même plus passionnant, quand même, que.
Ça, pour le premier, je pense que c'est assez unanime.
Ça relève.
Moi, ça a resté un très bon moment, surtout visuel, du coup.
Ah oui, oui.
Parce que. Et puis, pareil, j'aime bien raconter ce truc, c'est que juste avant d'aller voir le film, j'ai vu un bout d'interview de lui qui disait. Et du coup, ça va peut-être rejoindre ce que tu disais. Qu'il préfère mettre un peu de côté le scénario, mais qu'il préfère se concentrer sur l'image et le son. Et là, on le voit, en fait.
Certes.
Je trouve qu'on le voit, du coup.
Oui, c'est dommage.
Enfin, à un certain point, ça peut être dommage. mais du coup, moi, j'étais du coup, dans l'idée totale où je vais prendre visuellement quelque chose de très fort. Et du coup, je retrouve.
Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un truc dont il fait l'impasse, que Lynch avait gourmandise à utiliser dans son film, c'est la voix comme une arme. Et c'est absolument pas d'évoqué dans cette adaptation. Mais dans le film
si
de Lynch.
Si tu fais référence au module étrange.
Le module étrange, enfin, qui est une invention.
C'était pas
dans le bouquin, voilà. Et Lynch, au moins on peut lui remettre ça, c'est qu'il a fait plus dingue peut-être que le livre, parce que ça sert super bien dans le premier film. C'est que Paul Mabdib, enfin Paul Atreides, Paul, enfin bref, Usul, il a, au-delà de cette façon de commander par la puissance de la voix intérieure les notions des révérends de mer, enfin l'apprentissage des révérends de mer, il construit à partir de ça. Enfin, en gros, les Fremen, bah, pas les Fremen, c'est les Atreides en fait qui ont ça au début. C'est son camp en fait qui fabrique, qui travaille sur
oui,
ce modèle étrange.
Fabriqué, enfin qui travaillait là-dessus.
La technologie en fait d'un truc qui se positionne en fait au niveau du pharynx. Enfin, en gros, ça se pose là et ça capte en fait les vibrations des cordes vocales ou de la gorge et ça te permet d'impulser un tir de laser. Ça les amplifie. Et ça fait une onde qui peut briser une personne, des murs, etc., quand tu maîtrises bien ça. Et c'est intéressant, c'est totalement inventé par Lynch, ça, sur le premier film. C'était pas, comme dit Arnaud, dans les livres, mais c'était super sympa. Mmh. Donc là, du coup, ils pouvaient pas l'adapter. Hein. Enfin, c'est à copyrighté.
Là, Julien et toi.
Ouais, voilà.
Enfin bref, Julien, si tu nous entends.
Voilà, mais ça donnait un truc en plus, un petit truc en plus qui était chouette dans la version de Lynch, que là, on n'aura jamais dans la version de Villeneuve. Voilà, ça pourra pas le faire.
Ah, c'est en fait... La métaphore là de ça s'amène à une scène chez Lynch où un de ses Fedaïn qui a le module posé sur lui lui l'appelle par son nom Mouadib, voilà. Et le machin crache une onde
sans même qu'il la commande en fait, quasiment
qui détruit un bon pan de mur
d'un coup
et le bon Paul intérieurement dit mon nom est un nom qui tue, mais
beau,
en fait c'est dit quand même dans le Villeneuve, ça.
Oui,
parce que effectivement, son nom, en tant qu'emblème de cette rébellion, de ce djihad, mot qui n'est pas cité d'ailleurs, c'est quoi ? C'est Guerre Sainte.
C'est la Guerre Sainte.
Guerre Sainte.
Son nom est un nom qui tue.
Voilà.
C'est le
nom. On tue en son nom.
On tue en son nom, en tout cas.
Donc bon, la métaphore reste là, mais bon.
D'actualité. Mais voilà.
Et ben on va écouter un peu de musique. Et
alors
revient...
juste pour finir rapidement, j'avais vu, c'est sorti il y a pas très très longtemps quand même. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Nexus 6.
Non.
Bref, référence à Blade Runner.
Ouais, clairement.
là-dedans, le personnage, enfin le personnage, la personne qui nous cause de sa critique de film parle donc d'une deux. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il dit en fait. Voilà, on est à peu près en raccord. Donc si ça vous intéresse de prolonger un peu le débat, mais en tout cas de voir un autre avis qui est relativement semblable, vous pouvez aller voir. Et puis c'est une chaîne assez sympa. Enfin, en ce moment, ils font pas... C'est un peu espacé leur truc, mais à voir, quoi. À voir.
Manque de temps, ils devraient écouter un peu de musique pour se réveiller.
Oui.
Nous, on va écouter Baptiste Lagrave avec Ascending. Et puis on revient dans 3 minutes pour continuer nos critiques. Finalement, Dune a pris pas mal de temps.
Oui,
ça devrait le faire. À tout de suite. Nous voilà de retour en studio. Est-ce que on va reprendre directement avec le plus vieux, du coup ça va faire Immaculé
ouais.
Et puis moi je pense que je terminerai où ça dépend
de comment
on en est, mais de Kung Fu Panda.
Ouais.
Je vous laisse la parole parce que je ne l'ai pas vu.
Bon, à Immaculé, je regarde le nom du réalisateur, il s'appelle Michael Mohan, je ne sais pas s'il a fait d'autres choses. En tout cas,
ça ne me parle pas.
Moi non plus, mais il a choisi une actrice un peu emblématique, là aussi un peu
en vogue
en ce moment, c'est Sydney Sweeney, que moi j'adore particulièrement parce que je l'avais beaucoup apprécié, entre autres dans plein de choses.
Dans Madame Web
Dans Madame Web récemment, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, mais le descendu Madame Web que nous on a plutôt bien aimé, le pire des cas, c'est oui. Qu'on a plutôt trouvé c'est pas mal, mais elle joue aussi dans des séries, entre autres la série
Euphoria
bien sûr, avec Zendaya.
Et tout est lié, c'est fantastique.
Voilà, mais aussi Sharp Objects, qui était une série du regretté Jean-Marc Vallée, hein, qui est malheureusement parti trop tôt. Mais voilà, moi, c'est une actrice que je trouve vraiment, vraiment chouette. Récemment, j'ai pu voir Reality, où elle joue un rôle quasiment en solo, d'après un fait divers.
Je l'avais vu aussi, ouais. Qui
un
était
très sobre. Enfin,
un peu en demi-teinte. Mais,
ouais, c'est un demi-teinte, c'est clair.
C'était un beau projet.
C'est une performance d'actrice.
Mais demi-teinte. Mais,
donc
voilà.
Là, elle est coproductrice du projet. Alors apparemment, ce qu'elle m'a dit...
Elle n'est pas productrice.
Il y a plusieurs noms de producteurs, en fait, donc elle est dedans.
Parce que c'est elle qui a lancé le projet, il me semble.
Oui, je pense, j'ai cru comprendre.
Les envers de ce que je connais du film, c'est que c'est elle qui a lancé le gros du projet.
Boîte de prod, tout à fait.
Voilà, exactement.
Donc, ça confirme, son nom est crédité, mais comme il y avait d'autres producteurs associés, je me suis dit, effectivement, je pense qu'elle est un peu initiatrice du projet. Donc Immaculé... en faire un résumé, c'est une novice, qui s'appelle Cecilia, qui est américaine, et qui décide de traverser l'Atlantique pour arriver en Italie, dans un
monastère.
Un monastère qui est un peu un hospice pour anciennes nonnes, on va dire, qui sont proches.
Non âgées.
En tout cas, c'est un monastère hospice. Et elle vient là-bas, elle arrive dans cette communauté pour embrasser les ordres. Ça démarre par cela, en fait, avec d'autres novices. Former, prononcer ses vœux devant le prêtre, un petit peu le prêtre, le chef du coin, enfin je sais pas, le chef de la
l'archevêque, le
bishop. Voilà, le bishop. Et du coup, on rentre dans l'histoire par son biais. Et en fait, l'intrigue arrive vite à ce qui explique le titre, l'Immaculée Conception, vous aurez bien compris. Elle tombe enceinte. Alors qu'elle n'a pas fauté, en tout cas c'est ce qu'elle exprime, et on lui pose des questions moult fois, elle est expertisée, pour être sûre qu'il n'y a pas eu d'acte lui permettant d'être devenir enceinte. Donc non, aucune preuve n'est faite, mais l'échographe ne ment pas, il y a un petit chérubin à l'intérieur de Cecilia. Et alors là, extase totale dans la communauté, puisque c'est donc l'Immaculée Conceptrice du futur... représentant de Dieu sur Terre. Donc on va la choyer, on va la cajoler jusqu'à ce qu'elle accouche. Bien évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Elle va prendre cher, plutôt.
Oui.
Et ça va être assez craspec, en fait, parce que le film est quand même moins de 12 ans. Il est graphiquement détaillé, ça saigne quand même pas mal. L'intrigue, elle nous rappelle quelque chose, fatalement, Arnaud et moi. On ne va pas se leurrer. C'est une revisite d'un classique qui s'appelle Un bébé pour Rosemary, Rosemary's Baby, un bouquin d'Ira Levin sorti dans les années 60, adapté par Polanski en 69, avec Mia Farrow. Et on retrouve un peu, alors que ça se passait dans la bourgeoisie aisée, enfin, on va dire de New York, pardon, et d'un appartement new-yorkais. Là, on est effectivement, comme tu le dis, Lucas, dans l'univers de religieux dès le départ. On est dans une communauté. Donc, cette fait d'être enceinte sans procréation donne un côté, effectivement, un peu miracle, un petit peu comme ça. Mais on arrive vite sur le complot, on arrive vite sur les notions sombres de dessins qui se trament, avec bien évidemment l'avènement, pas forcément d'un élu positif, mais plutôt d'un représentant de Lucifer sur Terre. Enfin, on arrive vraiment dans un axe, mais que c'est pas dit. Je suis d'accord, là j'avance peut-être un peu trop vite mon truc.
Ça, c'est ton interprétation.
C'est mon interprétation et elle n'est pas forcément la plus plausible en réalité. C'est très ouvert. Et c'est pas du tout sûr de ça.
C'est un des intérêts d'ailleurs du film.
Ouais. Au moins on n'a pas les réponses à tout.
Après, comme tu disais, quand on a repéré la référence,
On la voit un peu partout.
On la voit un peu partout et on a du mal à s'étonner, à être surpris. Enfin, disons que le film n'est pas super bien écrit.
C'est clair.
Il lui manque pas mal en fait de la contextualisation de la mise en en bouche, à savoir que sur cette histoire d'hospice et de non ultra âgé qui perd la boule, il y avait tellement de choses à faire pour te mettre en condition à ce récit.
Non, c'est vrai.
Et ben ici. Passe un peu à côté de pas mal d'opportunités, ce qui est un peu dommage. Après, il y a quand même la relation qu'elle a avec une autre sœur qui est une ancienne
novice,
prostituée.
Oui, voilà, c'est ça, effectivement.
Qui rentre dans les ordres parce que finalement, ça lui ferait des vacances. Enfin, je ne sais plus exactement ce qui est évoqué.
Et aussi, une jeune nonne qui est très, très... comment dire,
carré.
Très carré et très militaire et qui rigole pas, qui sourit jamais. Et c'est sa préceptrice au début. Et ça, c'est très, très drôle, si on veut. Mm-hmm. Je trouvais que c'était marrant. Et l'actrice, elle est extra, quoi. Elle est vraiment méchante. Enfin, c'est vraiment la méchante thénardière.
Une bonne froideur.
Une bonne froideur qui rentre. C'est pour ça que les entrées en matière sont très intéressantes. Mais on est déçus par
ça. Ça aurait pu être développé un peu plus, tout ça, avant de passer dans le vif du sujet. Ouais. Ça aurait pu faire monter un peu la sauce, faire monter l'ambiance, le suspense et l'angoisse. Sauf que ils sont passés un peu à côté.
Voilà. Et du coup, après cette dernière partie, cette deuxième partie, voire la dernière partie, et quand même, moi je me suis même assoupi tellement sur 1h28 pourtant. Tu te rends compte, mais tu manques une minute sur 1h28, tu te manques un morceau.
Clairement. Un morceau, parfois,
et du coup, moi j'ai trouvé que ça perdait en puissance au fur et à mesure qu'on arrivait au dénouement, à part peut-être une séquence qui est quand même un peu poussée, un peu lente, un peu longue même, pour que ce soit désagréable en salle. C'est une séquence de close-up de cri où Sydney Sweeney s'en donne à cœur joie sur ce genre d'exercice qu'elle affectionne particulièrement, c'est-à-dire de beugler en bavant devant la caméra à 20 cm de l'objectif. Elle est capable de le faire, elle le fait plutôt bien. Et cette séquence, elle est assez pénible à supporter, elle dure longtemps, enfin trop longtemps à mon goût, mais elle est importante. Et beaucoup de mes petits-neveux qui sont venus voir le film, un de mes neveux m'a dit, en tout cas son petit copain, il m'a dit, cette séquence elle est forte, elle est féministe, etc. Parce que c'est un cri, c'est un... Et du coup, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est quand même cher payé pour beaucoup de trucs en attente qu'on n'a pas vu. Et en plus, nous ressortir les sempiternels... séquences, ça nous a fait marrer, les séquences de pièces secrètes avec des bocaux et des machins comme ça, genre entre d'un savant fou. Ouais. Et ça, c'est pas le bon endroit ni le bon film. Je sais pas pourquoi ça vient là. Et en plus, d'ailleurs, c'est utilisé juste pour une séquence. J'ai trouvé que ça faisait factice.
C'est vrai que ça faisait un peu
ça
tâche.
Fait très factice et c'est dommage parce que ça servait pas à grand chose. Par contre, à retenir, moi, je trouve dans les décors qui sont peut-être vrais ou pas faux. J'ai pas su cerner. C'est qu'à la fin du film, elle est dans un labyrinthe un peu de sous-sol. Qui fait penser un peu à des catacombes, mais pas loin, en fait, des cryptes. Et ça sans arrêt, comme ça, on s'enfonce dans un tunnel avec un éclairage de lampe torche. Et j'ai trouvé que c'était plutôt étonnant comme endroit.
Ce qui est bizarre, c'est qu'y a plein de cellules, mais qui sont vides.
Ouais, des tumulus, enfin pas des tumulus, mais des cellules, des coffrets pour mettre les corps, en fait. C'est comme dans ces. Comment dire, c'est des premières tombes du 1er siècle. Donc ça, c'était intéressant. Mais voilà.
Et dans le catalogue, on va dire, des films religieux d'horreur.
Il y en a d'autres qui arrivent, attention. ça déboule. Hein. Entre la malédiction bientôt là, au commencement, là, qui va arriver chez Pocan, là, dans deux semaines. Il y en a encore un, Abigail. Il y a deux films avec, si on compte celui-là, ça fait trois films sur les religieuses, les nonnes, etc. C'est hallucinant cette mode.
Mais est-ce que ça c'est pas un trop? Parce que avec la nonne, avec...
La nonne, c'était de la daube déjà, clairement. C'est vraiment le truc inutile.
Non, c'est quand même au-dessus...
C'est au-dessus de la nonne. Hein.
C'est au-dessus du
panier. Voilà, parce que c'était ma question première. Où est-ce que le film se place dans ce
je pense qu'il se place un peu comme...
Genre et presque sous-genre de horreur religieuse.
Horreur religieuse.
C'est un peu plus arty.
Ouais.
Ouais.
C'est pas du blockbuster brutasse comme La Nonne.
C'est du Sundance Gore.
Ouais.
C'est du Sundance Gore, en fait.
Ouais, oui, non, c'est ça, exact.
Petit budget,
c'est à peu près ça.
Film actrice porteuse, petit budget.
À part effectivement au moment du décor, comme tu disais, là, qui est un peu mal placé ou mal foutu, et qui est là où on retourne un peu dans le kitsch de certains. D'autres films. Il y a un poil de jumpscare, ce qui. au début a commencé à me crisper, puis finalement pas trop. Ça veut dire c'est pas les ficelles.
Il y a une lecture, nous on n'a pas forcément vu parce que bon, elle est évidente, mais enfin on n'est pas obsessionnel à ce point. Mais c'est encore une fois mon neveu, enfin le copain de mon neveu qui m'a dit, c'est un apologie de, enfin le film défend l'avortement. Aux États-Unis, ça prend une connotation, une corrélation particulière, enfin une coloration particulière. C'est vrai, le film, il défend effectivement cet angle-là. En fait,
le droit à disposer de son, son corps.
C'est assumé, hein, c'est même ce cri à la fin, il est un peu emblématique de ça, hein, qu'on va pas se cacher. Je spoil, désolé, mais tant pis. Hein. Mais voilà. Donc oui, c'est un film militant. Je pense que c'est ce qu'il appelait Sidney Sweeney, quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire. Quand on regarde un peu la sous-création du film, ça serait pas étonnant qu'il y ait ce sous-titre, de la boîte de
sinon elle aurait pas mis des billes dedans, je pense.
Elle aurait pas monté autant ce projet. Et puis je pense qu'elle a je pense quand même qu'elle a une grosse part de création dans ce film là, c'est ce que j'ai entendu.
Elle est de tous les plans, hein,
elle est de tous les plans. Et ben on va passer à un autre registre. Je sais pas si ça va finir.
Si, les petits pandas. Enfin, nous, on a vu que le 1. Je crois que j'ai peut-être vu le 2 avec. On a peut-être vu le 2 chez notre pote Yann.
C'est possible, je me souviens.
Mais j'ai pas trop souvenir. On se souvient du premier.
Non, je disais, je sais pas si ça va finir l'émission. J'ai d'autres petits films. Mais... Ouais. Kung Fu Panda 4. Déjà. Du coup, après le 2. Après le 1. Ouais, bah voilà, déjà, je commence très très mal. Après le 1, après le 2, après le 3. C'est dont fou. Je n'avais aucun souvenir. Totalement là, c'était le. J'y suis allé. J'ai eu un gros week-end.
Ouais.
Dimanche, j'étais mort de fatigue. J'y suis allé vraiment en mode zombie. Du coup, c'était vraiment pour voir un truc et pour faire autre chose que dormir.
Et ça t'a réveillé un peu.
Je pense que la fatigue a pris le dessus au-delà du niveau du film. Mais du coup, réalisé par Mike Mitchell, Kung Fu Panda 4. Quand on arrive avec le postulat de d'aucun souvenir des autres ou alors de vagues images, parce que ça a quand même marqué, moi je peux dire mon enfance quand même, mais aucune backstory, quoi. Moi, j'en étais à un point, un non-point. du coup, j'ai pris ça avec le train totalement en route. Et j'ai pas passé un moment totalement déplaisant, mais j'ai pas passé un moment. Ce sera pas le film. Le film du mois sera pas le film de l'année, mais
c'est regardable si on n'a pas trouvé les autres.
Voilà, en fait, pour le coup, j'ai pas été perdu, j'ai pas été mis de côté. Là où certains films, je pense, pourraient le faire, genre, je sais pas, La Reine des Neiges 2, si on prend ce film-là. Je sais pas pourquoi c'est celui-là qui me vient en tête, mais
bientôt Vice Versa 2, on verra si on arrive à changer les wagons, hein, c'est bientôt.
Oui, c'est bien, bientôt, c'est en avril, ça doit être début ou mi-avril. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a déplu dès le début du film, c'est même pas par rapport au film, c'est par rapport au générique de DreamWorks qu'ils ont changé.
Bon.
Là, ça a fait un coup à mon enfance.
Qu'est-ce qu'ils ont fait alors à la place?
Ils ont une sorte de cheminement où ils montrent tous les personnages marquants de DreamWorks.
Ah mince. Ah ouais, genre le truc de Marvel.
Ouais. Genre le truc de Marvel c'est une sorte de où le pêcheur file et tu vois Shrek qui te fait coucou.
Ah non.
C'était vrai.
C'était pour leur label animation peut-être qu'ils ont fait ça. Je pense que s'ils font un film avec des gens, il y aura peut-être encore le dé de DreamWorks, c'est le petit pêcheur. Enfin,
peut-être, je sais pas.
Et la petite mélodie à la guitare.
Oui, là, du coup, et on voit Croque-Mou, le dragon qui vole.
Oui,
de
dragon.
C'était très mauvais.
D'accord.
Honnêtement, très mauvais.
Ça me met déjà mal.
Et du coup, moi, ça me mettait déjà pas dans une très bonne ambiance. Mais sinon, après, le film, moi, je l'ai vu en VF. Du coup, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Mais après avoir la version de Jack Black, ça doit pas être déplaisant non plus.
Ouais.
Mais le doublage n'était pas atroce non plus. Mais les blagues fonctionnaient peut-être un peu moins. Et d'ailleurs, cet apport de blagues, moi, je l'ai pas eu du tout. Quand j'entendais certaines personnes dans la salle rire, moi je ne rigolais pas.
C'est un peu générationnel du coup.
C'est peut-être un truc générationnel qui est moins marrant. Par exemple, je vais citer une scène qui est pas importante du tout où Po, le nom du panda, est avec un nouveau personnage là d'ailleurs, une renarde, il me semble, ou enfin une sorte de d'animal dans ce genre-là, où ils vont dans une nouvelle ville. Alors là, on découvre une nouvelle ville parce que on part de la vallée qu'on connaît depuis trois films. On part dans une grande ville, c'est Juni. Je vais chercher ça tout de suite. Mais
c'est une vraie ville ou c'est une ville avant tout?
Ouais, une vraie ville. Et c'est ce truc de grande ville qui,
qui pousse très vite. Là,
voilà, genre mégalopole, ouais. Même si c'est dans un comment dire, dans un.
Ça reste médiéval.
Ça reste médiéval. Ça reste avec le signe asiatique très présent. Mais on sent que c'est genre la grosse ville qui marche, etc. Et du coup, ils arrivent dans cette ville. Je crois que l'autre animal est recherché. Et il y a ce truc de « mais non, on n'est pas recherché ». Et genre, le plan d'après, on a 3000 affiches de la renarde, genre « wanted », etc. Mmh. C'était des blagues très vives. Enfin, du coup, oui. J'imagine que la VF joue beaucoup, mais…
Easy jokes.
Easy jokes, surtout visuel.
Ouais.
Et voilà, je le dis, ça a pas beaucoup fonctionné, mais l'animation était pas déplaisante non plus pour le coup. Ça, pour revenir sur un des gros points quand même pour un film d'animation, l'animation c'est quand même important. C'était pas du tout déplaisant, ça sortait pas du cadre non plus des studios DreamWorks, hein, on n'était pas dans quelque chose de très nouveau, mais c'était efficace, voilà, c'est ça, c'est que c'était efficace sans non plus sortir de sentiers battus. On reste sur une animation qui est globalement pareille tout le temps. On n'a pas de mélange, etc.
Des virgules où ils vont faire des extraits en dessiné plus fin,
qui est un peu à la mode entre guillemets, je dirais presque depuis les Spider-Man, ça, voilà, exactement, les Spider-Man Cross the Universe,
les médiums graphiques,
voilà,
un peu,
exactement, ouais. Où les médiums changeaient pas mal. Là, on reste sur une patte
continuité
dans la continuité de ce qu'on connaît et qui n'est pas déplaisante pour le coup. Mais alors, je ne sais plus quel problème avait eu DreamWorks il y a quelques années où ils ont été rachetés.
Ben, c'est possible,
je ne sais plus trop.
À la base, c'est Spielberg et son premier mec. C'était, je ne sais plus, Geffen, Spielberg et puis un troisième producteur.
Et je ne sais plus s'ils étaient en potentiel rachat par Disney je ne sais plus où en était DreamWorks. Mais je me dis que la patte est pas mauvaise de relancer Kung Fu Panda 4 et de relancer les anciennes peut-être les anciennes franchises, parce que je crois que Dragon était un peu éteint depuis le dernier. Après, à voir ce qu'ils vont relancer. Je dis pas qu'on reverra un prochain Shrek, à mon avis ça me paraît compliqué, mais s'ils se mettent dans cette voie de relancer des anciennes franchises, parce que le dernier Kung Fu Panda, à mon avis il date il a déjà quelques années, 2016.
Ah ouais, quand même.
2016, ça fait quand même 8 ans qu'on n'avait pas vu Kung Fu Panda, et de ce que je me souviens, Kung Fu Panda était pas si 3 était pas enfin moi j'en ai j'ai aucun souvenir de sortie de salle c'est compliqué. J'avais l'impression qu'on déterrait un truc quand j'ai vu Kung Fu Panda 4 sortir. Là, il y a quelques mois quand
il y a pas eu de bande annonce. Moi, ce qui est dingue, c'est qu'il est sorti, il est dans toutes les salles et tout. Moi, j'ai même pas vu une bande annonce.
Si, on a eu
quand même.
On en a vu, mais on discutait.
On discutait, on n'a pas fait gaffe.
D'ailleurs. Après, moi, je me base pas trop sur ce point-là parce que je regarde pas trop les bandes annonces avant. Mais pareil, ouais, pour le coup, pour la com, j'ai pas vu non plus beaucoup de.
Non, c'est vrai.
Il y a des affiches un peu en ville quand même, ça. Ils annoncent la sortie quand même, mais bon.
Je trouve que de ce qu'on voit par rapport aux États-Unis, là où le film est quand même un assez gros carton, je pense, Jack Black quand même, qui fait beaucoup marcher les choses, et de par les premières coms des premiers films où le film avait vraiment été marquant pour beaucoup de monde, je pense quand même. Là, on sent un. Mais je pense que il y a un truc à aller chercher dans la situation actuelle de DreamWorks, je pense, qui est un peu à revoir, mais voilà, donc Kung Fu Panda en famille, je pense que ça passe très très bien, mais dépenser entre guillemets une place pour ce Kung Fu Panda là 4, il est dispensable, mais après je peux pas dire pour les fans non plus de la saga. Donc voilà, et c'était tout pour notre petit tour de bobine, pour notre retour. Pour le prochain, je sais pas comment ça va se passer parce que moi je pars bientôt. Et oui, moi mon contrat se termine bientôt. Donc va falloir voir ça, voilà. Je pense que alors normalement il se termine le 15 avril. Donc à voir si mercredi 17 je reviendrai pour ma turbulence juste avant et pour notre émission finale tout de suite. Et bah,